Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous donner le plaisir de découvrir l'autre finance avec la question « Existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste ?» Et pour ce faire, nous recevons le duo d'auteurs d'une parution très récente qui a pour titre précisément « L'autre finance », une parution sous la signature de Daniel Bachet et de Philippe Nasnali, qui représente aujourd'hui sur notre antenne ce duo. Philippe Nasnali, bonjour.
Bonjour, Jean-Louis.
Merci de nous avoir rejoints sur cette antenne. Vous êtes, très rapidement, pour vous présenter par ailleurs, professeur associé à l'Université d'Évry, où vous dirigez des formations en alternance et membre de l'équipe de recherche en management. Et, bien entendu, vous êtes le directeur bien connu de la revue des sciences de gestion, et ceci depuis 1990. Je pense avoir rien oublié. Vous êtes par ailleurs un auteur et chroniqueur bien connu. Alors, d'un mot, une présentation de Daniel Bachet, qui est alité, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, qui est directeur du département entreprise au Centre d'études des systèmes et des technologies avancées, le CESTA, et qui a été chargé de mission au commissariat général du plan, à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANAC, jusqu'en 1996. Et il est aujourd'hui professeur de sociologie à l'Université d'Évry et chercheur au Centre Pierre Naville. Alors, cette parution, cher Philippe, est une sorte de mélange de genre entre une approche sociologique de votre co-auteur et la vôtre qui est plus orientée sciences économiques. Mais néanmoins, vous avez des convictions partagées et pour vous, il existe des alternatives à la banque capitaliste, ce que vous appelez l'autre finance. Alors, c'est quoi l'autre finance ?
Alors, l'autre finance, évidemment, c'était un peu facile. C'est né de l'idée que j'ai eue il y a un an et demi maintenant, comme je dirige des formations d'économie sociale à l'Université d'Évry. L'idée est venue de proposer aux étudiants et à la recherche un thème qui était, alors il y a l'altermondialisme, et on s'est dit, puisque la crise financière que j'avais un peu analysé dès 2007 dans ma revue, avec un éditorial qui s'appelait « Les arbres ne moussent pas jusqu'au ciel oui. », qui était très prémonitoire finalement. Et là, eh bien, l'idée était qu'au fond, cette finance-là, qui date d'il y a une trentaine d'années, qui est celle qui a, au fond, amené, non pas le monde à la faillite, parce que je serais plus mesuré, mais le monde en tout cas au bord de l'abîme dans bien des domaines, et dans une espèce de dérèglement absolu, eh bien qu'il y avait une autre possibilité, comme au XIXe siècle. Car de base, je suis historien. Oui, comme au XIXe siècle, en fait, il y avait une autre façon de concevoir l'organisation de la répartition de l'argent et de l'utilisation de l'argent, car au fond, l'argent est un moyen, non pas une fin, très ancré dans le christianisme médiéval. C'est un moyen, et c'est un moyen d'obtenir ou de distribuer, d'obtenir des produits, d'obtenir des services et de distribuer. Et je pense que cette idée d'altérité, qui est employée dans des tas d'autres domaines, était une idée qui pouvait porter. Et je dois reconnaître que lorsqu'on a lancé ce petit colloque dans ma petite formation à l'Université d'Évry, on a été absolument suffoqués de voir en quelques semaines arriver des papiers du monde entier et d'auteurs qui avaient des exemples du travail à nous présenter. Et le livre est né au fond, d'abord de ce colloque qui a été une belle réussite à l'Université d'Évry en 2010.
Donc c'est relativement récent.
Relativement récent, et que nous avons transformé d'une part en un ouvrage, celui dont on parle et qui est sorti jeudi, donc qui est tout chaud, si j'ose dire, et un numéro spécial de ma revue qui est un peu plus technique, bien entendu. Et l'idée, au fond, ça a été de s'associer avec Daniel Bachet, qui est un sociologue, effectivement, qui est un sociologue de l'entreprise, qui est un grand spécialiste de la propriété de l'entreprise, qui a des idées et des thèses assez originales, d'ailleurs, c'est la notion du droit de l'entreprise.
Ouais, la propriété, mais nous y reviendrons voilà. Un peu plus.
Et au fond, on s'est retrouvés, alors que nous venions d'horizons très différents, moi je suis un ancien banquier mutualiste, hein, qui est devenu ensuite un peu tout, si on peut dire, lui est un chercheur d'origine, Et nos approches d'économistes historiens d'un côté, d'historiens de l'économie, et de sociologues de l'autre, se sont rapprochées et ne se sont pas confrontées, mais se sont complétées. Et je dois reconnaître que travailler avec Daniel Bachet, qui n'est pas là, donc je peux en dire tout le bien que j'en pense, est très agréable parce que effectivement, il y a une complémentarité.
Alors, dans votre thèse, bien entendu, vous êtes d'accord pour reconnaître une nécessité incontournable aux banques pour financer le développement économique et social. Mais la question que vous posez, c'est de savoir de quelles banques, en quelque sorte, nos sociétés ont besoin. Donc, on a besoin de banques, mais est-ce que les banques, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, répondent aux attentes de la société, aux finalités de la société ? Alors, la question porte en soi des éléments de réponse plutôt négatifs. Et ce que vous proposez, ce sont des voies qui se rapprochent ou qui prolongent, plus exactement, les expériences des caisses Réfessen au début du siècle dernier, si mes souvenirs sont bons, et que l'on a retransmis en Europe, qui ont essaimé un peu partout en Europe, à commencer par la France avec les banques coopératives et les banques mutualistes à côté, et qui ont pris une part de marché extrêmement importante, d'ailleurs la majorité du marché, à côté des banques classiques, les trois vieilles dont on connaît. Alors, elles ont eu un certain succès, mais ces banques mutualistes qui répondent plus à la façon dont vous concevez le rôle des banques, mais elles n'ont pas échappé dans l'actualité récente, elles aussi, à, on va dire, la grande tourmente des marchés financiers. Alors, c'est ce que vous dites quelque part dans votre ouvrage. Leur défi, c'est d'être confronté en réalité entre l'idéal qu'elles portent et la réalité de tous les jours. Alors, comment voyez-vous ce défi, ou en tout cas ces choix que nécessite cet équilibre entre ces deux contraintes ?
Question compliquée. Je vais repartir du passé, comme toujours, puisque vieille réflexion d'historien, et puis de praticien aussi. Parce que, je l'ai dit, j'ai été président d'une caisse de crédit mutuel dans une petite ville de la région parisienne, qui était là une des caisses les plus anciennes d'Île-de-France. Elle avait été créée après les crues de la Seine pour acheter deux vaches. C'est intéressant, en 1911. Et j'ai été ce président pendant 5-6 ans ou 10 ans, je ne me souviens plus exactement, dans les années 80. Et je me suis aperçu que nous pouvions, au fond, fonctionner à peu près à l'instar de ce qui se faisait au milieu du 19e siècle dans l'idéal de Raiffeisen. Autrement dit, que nous drainions l'épargne locale. À peu près un tiers de la population de la ville était cliente chez nous, sociétaire comme on dit.
Donc une notion de grande proximité.
Voilà, nous étions proches et nous redistribuions les excédents, le profit, vers les associations locales ou vers des activités locales. C'est-à-dire que nous étions totalement dans l'esprit de Raiffeisen. Alors on me dirait, comment est-ce qu'on en est passé à ce qu'on voit de nos jours où le Crédit Agricole est société privée? Quand je vois certains panneaux d'affiches, je suis halluciné. Hein, pour bien reconnaître, comme disaient les gamins de nos jours, halluciné, c'est ça. Et comment en est-on passé là? Eh bien, on en est passé là, et ça c'est ma pratique et ma thèse au fond, parce qu'on a oublié ce qu'est la démocratie mutualiste. Au fond, se sont appropriés ce qui était la propriété collective. J'entends propriété collective, non pas dans un sens communiste ou sens Lénine ou Staline, mais dans le sens de la propriété des gens qui mettent, qui partagent et qui ont envie de faire quelque chose. L'idée de l'association, d'ailleurs, c'est l'article premier de la loi de 1901,
c'est la même chose.
Des gens qui veulent s'associer, au fond, dans un but autre que lucratif, c'est bien la même idée. Pourquoi ? Parce que au fond, on a fait des prisons de caisse, et j'ai vu ce tournant au début des années 90, où finalement, on leur a dit, vous savez, la finance, maintenant, c'est très compliqué, circulez, braves gens, il n'y a plus rien à voir. Vous êtes des notables, on va vous emmener voyager, on va vous donner des médailles, on va vous inviter à des buffets, vous serez des gens en titre. Et puis nous, les théoriciens...
La technostructure, comme on dit.
Voilà, la technostructure, mais nous, on voit les théoriciens. Et à partir de là, la technostructure, parce qu'elle n'était pas différente, au fond, on passait directeur général du Crédit Mutuel, aussi bien que directeur général de la Banque de Paris et des Pays-Bas, et qu'au fond, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Je ne citerai pas des noms, mais je les ai bien en tête. Au fond, ces gens-là ne croyaient pas la mutualité, et ils n'avaient qu'une envie. Moi, je les ai entendus me dire ça, moi, administrateur fédéral du Crédit Mutuel, texto, me dire, mais au fond, vous les élus, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien, c'est très grave. Et
Je Donc regarde c'était vidé de sens, en
vidé
quelque
de
sorte,
sens,
l'idée...
Car fondamentalement, Yad chez Raiffeisen, ces deux affaires, on est coopératif et on prend en main son destin. Si vous enlevez la prise en main, c'est-à-dire la décision, vous enlevez au fond tout le principe mutualiste. J'ai fait une thèse sur le sujet, par ailleurs écrit un livre, sur mon idée de gouvernance démocratique. Il faut absolument rétablir cela. Et si je regarde les études que fait Gilles Kerr, par exemple, à l'université de Poitiers, il analyse les assemblées générales de caisses de crédit mutuel ou des caisses d'épargne, etc. On s'aperçoit qu'il n'y a aucune démocratie réelle et qu'à partir de là, évidemment, vous avez toutes les dérives qui peuvent surgir puisque les mêmes gens produisent les mêmes effets à peu près partout.
Oui, alors, Daniel Bachet, en fait, je crois qu'il faut rappeler à nos auditeurs que cet ouvrage qui est paru aux éditions du Crocant, L'autre finance, 317 pages, 22 euros, est à deux interventions, contributions, on va dire, majeures, c'est celle de Daniel Bachet et la vôtre, mais qu'elles sont accompagnées de, d'autres contributions qui viennent illustrer un certain nombre de points particuliers, la microfinance, etc. Donc, il y en a un certain nombre, on ne va pas les citer tous, peut-être... sont des universitaires, c'est ça, hein, tous.
Il y a les deux. Il y a les deux, si je puis me permettre de vous interrompre. Il y a Victor Granger, c'est un homme qui pratique une banque nouvelle, la NEF, qui a toutes les peines du monde à s'imposer parce que la nomenclatura, excusez-moi, bancaire française, fait un barrage épouvantable, y compris la nomenclatura.
Donc on en dira un mot de la NEF, alors d'accord, et puis les autres
Et puis Philippe Dichandu, qui est au fond, qui était le directeur général du microcrédit européen à l'époque où il est intervenu et qui maintenant travaille pour la fondation Grameen du Crédit Agricole.
D'accord.
Donc ils sont des praticiens.
Grameen étant le prolongement de la fondation de Mohamed Younous.
Donc il n'y a pas au fond que des universitaires.
D'accord.
C'était bien l'objectif de notre
aussi.
Colloque, puisque je dirige des formations d'apprentissage, je veux à tout prix qu'il y ait toujours l'action et la réflexion, et que la réflexion naisse de l'action comme une université doit être.
En tout cas, c'est tout à fait réussi, c'est ce qu'on retrouve dans cette remarquable parution. Donc, Daniel Bachet, on ne va peut-être pas trop s'y arrêter, parce que c'est assez évident, reconnaît que les banques capitalistes ont des résultats peu convaincants. Alors, ça dépend sur quoi, mais en tout cas, on peut dire que ces résultats ne sont pas parfaits dans tous les domaines, et notamment dans les conditions liées au progrès humain et social. Ça, c'est évident que c'est un peu les reproches qui est en termes démocratiques, c'est ce que vous dites. Alors, vous développez donc les alternatives à cette banque capitaliste qui n'a pas fait ses preuves, ou totalement ses preuves, et vous donc, vous appuyez sur les bases historiques et sur les principes même, les valeurs donc du mutualisme liées aux caisses Raiffeisen. Mais là où on a plus de difficultés à comprendre les orientations que vous arrêtez, c'est de savoir si véritablement ce modèle que vous appelez de vos voeux est susceptible, à votre sens, de se substituer aux banques capitalistes, ou est-ce qu'il ne peut être de toute façon qu'une partie de la réponse, ou est-ce que vous êtes pour en gros un grand soir où on verrait émerger cette alternative au système capitaliste ?
Cette très belle question qui au fond n'a pas dans ma tête en tout cas, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait une réponse. Si on veut rester sérieux, on peut avoir une réponse idéologique. Le grand soir, pourquoi pas ? Je ne suis pas un grand partisan du grand soir. Mais parfois, encore que parfois, je dois reconnaître que c'est tentant. Bon, mais
ça dépend pour qui.
Une Saint-Barthélemy des banquiers, si j'ose dire.
Voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, ça dépend pour qui.
Mais
si on est banquier, c'est un peu moins tentant.
Voilà, mais cela étant, je ferais bien une distinction. J'ai eu le plaisir, l'honneur, de recevoir dans mon université, il y a quelques années, Serge Dassault. Il était venu parler à mes étudiants.
Alors Serge Dassault, lui, c'est le patriarche.
Voilà, Serge Dassault, qui à l'époque était maire de Corbeil-Essonne.
C'est ça, le créateur,
avait
l'intention
de devenir député contre Manuel Valls.
Bon, c'est ça.
L'histoire n'a pas permis à Serge Dassault, je ne prends pas parti. Il était venu parler à mes étudiants d'économie dans un amphi, en leur disant, parlons de ce qu'est un patron, puisque ça peut être intéressant et c'est un vrai témoignage. Et il leur avait dit... Alors, je vais être très méchant. Il aurait dit, il parlait de Messie à l'époque.
Hein, ah oui, d'accord. Oula.
Je n'aurais pas cité.
Le sinistre mémoire.
Il y a des vrais patrons, des ceux qui jouent leur capital. J'en fais partie.
Alors, ça, c'est l'entreprise familiale, un petit
peu. Et puis, et auquel je suis un peu attaché, ça fait porter de l'objet d'une autre étude un de ces jours prochains. Et puis, il y a ceux qui, au fond, sont ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les intendants. Vous vous rappelez, au XVIIIe siècle, c'est les fermiers généraux et les intendants. Ouais. C'est ceux-là qui ont fait pressurer les bons peuples. Parce qu'au fond, ils sont les valets. Chez Beaumarchais, ce sont les valets. Et ces gens-là,
plus terribles que des maîtres.
Et voilà. Et ces gens-là, au fond, je me demande s'ils ne sont pas ceux qui s'appellent banquiers maintenant, ceux qu'on appelait intendants au XVIIIe. Donc, parfois, ça serait ça le ressort. Mais je ne réponds pas complètement à votre question. Votre question est de dire, est-ce que ça peut se substituer? Si on regarde bien à l'origine, la banque coopérative et mutualiste, moi je tiens beaucoup au mot coopératif, parce qu'il y a l'idée qu'on se partage la responsabilité, qu'on partage la décision, qu'on partage le profit, et qu'on partage l'ambition de préserver, ou le projet commun. Ça, j'y crois beaucoup, et là je pense que c'est quelque chose qui peut se développer. À côté, et quand on voit la place des grandes banques mutualistes actuelles, on se dit qu'elles pourraient même se substituer à bien des endroits, dans le développement local, dans le développement régional, aux organismes actuels. Cela dit, si on regarde l'histoire, au XIXe siècle, les banques mutualistes, à part chez la Banque du Peuple de Proudhon ou des choses comme ça, ne visent pas à totalement remplacer les banques capitalistes. Parce que là, on entre dans un autre champ qui n'est pas le champ de l'économie, mais qui est le champ de la politique. Et donc là, moi, je m'arrête parce que ce sont des choix politiques. On peut effectivement, et je reprends votre terme, vouloir le grand soir, ce n'est pas mon opinion. Option, ça peut être l'option de certains, mais je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup fonctionné quand on avait étatisé tout dans d'autres régimes.
Effectivement, on peut se demander pourquoi les banques, notamment si on prend l'exemple français, pourquoi les banques coopératives et mutualistes qui ont, dans un premier temps, enfin en disant au cours des 3 ou 4 dernières décennies, pris des parts de marché considérables sur les banques classiques, ont maintenant atteint un niveau de stagnation, en quelque sorte, par rapport à ces parts de marché, voire même de retour en arrière. Est-ce que la réponse n'est pas dans le fait que, finalement, la France, le système bancaire français, doit s'insérer dans un univers qui est mondial, et dans cet univers mondial, la règle du jeu, ce n'est pas la solidarité, ce n'est pas exclusivement la solidarité, même si parfois les dirigeants l'affichent comme tel. Ce sont d'autres règles du jeu qui sont liées au marché, au profit et à une logique libérale. Donc, est-ce que la dimension, on va dire, mondialiste n'est pas en soi une limite à la progression ou à l'alternative que peuvent représenter les banques mutualistes et coopératives, cette autre finance que vous appelez de vos voeux?
Alors, on peut, là aussi, il y a une très belle question. Est-ce qu'on peut la voir de deux manières? On peut y voir le localisme. La banque de Raiffeisen, elle est locale. C'est ce que je vous ai décrit comme mon expérience personnelle. Et je sais qu'elle peut être extrêmement efficace. Je l'ai été vice-président et président, et je sais combien on peut aider au développement et font fonctionner. Mais je crois, et les chefs d'État sont en train de nous montrer, paradoxalement, que la crise que reconnaît un autre pays, qui est la Grèce en ce moment, mais apparemment d'autres, nécessite naturellement la solidarité, et qu'au fond, le libéralisme a tout craint, à ses propres limites. Et qu'au fond, si on n'a pas cette solidarité, on court à la catastrophe. Alors, c'est pas qu'ils y soient, qu'ils y entrent vraiment avec grand plaisir. J'ai pas compris que Madame Merkel, Monsieur Sarkozy peut-être un peu plus, j'ai pas compris que Madame Merkel, avec les Allemands, entrait dans une solidarité avec les Grecs ou les Italiens.
Un volontarisme.
Mais on est en train d'entrer à cela. Je pense malgré tout que c'est un modèle qui peut même s'appliquer mondialement. On voit bien les choses. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est qu'il y a eu, à un moment donné, l'idée d'une course au gigantisque. Je vais peut-être vous faire rire, mais il y a un point qui me revient. En 1989, j'étais administrateur fédéral du Crédit Mutuel d'Île-de-France. Et le directeur général, on avait fait les assises du Crédit Mutuel, qui avait lieu à Versailles d'ailleurs, et il m'avait dit, déjà un peu narquois à mon égard, j'étais quand même un des plus jeunes présidents, il m'avait dit, je vais vous confier l'atelier, le Crédit Mutuel peut-il se développer sans perdre son âme? Et c'était un beau sujet.
Très beau sujet.
Au fond, je pense qu'il y a une forme du développement qui fait qu'on perd son âme. Et qu'il faut en permanence, comme dans un couple au fond, l'amour, l'amitié ou l'affection, c'est quelque chose que l'on cultive. La démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement fragile, que l'on cultive chaque jour. À tout moment, on peut la perdre. Et je dis, ça paraît un peu bébête ce que je raconte,
mais au fond, c'est
finalement ça qui est l'enjeu, car peu importe la taille, à partir du moment où les structures responsabilisent l'homme et en font le centre et non pas un objet, on a retrouvé, recréé une coopérative ou une solidarité. Et je pense que ça, c'est un vrai modèle, et je m'en réfère à la doctrine sociale de l'Église qui finalement a inspiré une bonne partie de ce mouvement coopératif et mutualiste.
Alors on retrouve là les idées du démocrate chrétien. Je voudrais, pour donner l'esprit et le ton de votre ouvrage, citer un passage qui se situe dans la conclusion à la page 316. L'autre finance ne doit donc pas rester un domaine alternatif et marginal. Il faut s'inspirer des valeurs et des règles qu'il porte pour construire l'économie sur d'autres fondements, au service des hommes et non plus à leur détriment. Pierre-Yves Gomez et Harry Corinne s'inscrivent dans cette logique lorsqu'ils écrivent que « c'est ce que chaque citoyen doit désormais comprendre s'il désire que sa citoyenneté ne devienne pas une fiction, car la bonne gouvernance, ce sont d'abord les hommes qui la font ». Donc il faut espérer des hommes et garder une part d'utopie, c'est ce que vous rappelez dans vos développements, en gardant une forme d'optimisme et en rappelant sous forme de clin d'œil que, à la façon d'un entomologiste pour le règne animal, je vous cite, « la solidarité est un fait d'une importance capitale dans les sciences naturelles puisqu'elle caractérise la vie. Par exemple, l'association entre les figuiers et leurs pollinisateurs a depuis longtemps été étudiée comme un modèle classique de mutualisme spécifique et obligatoire de pollinisation, impliquant très généralement une espèce de pollinisateur à une espèce de figuier. Il n'y a donc pas réellement de vie sans mutualisme. Ça, c'est une conviction où je ne m'y connais pas. Autant d'espoir pour l'autre finance. C'est une thèse qu'on peut qualifier de peu libérale, mais qui s'appuie sur des idées qui devraient aider à vivre mieux, ce qui n'est pas le moindre des défis pour les prochaines décennies. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « L'autre finance, existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste ?» par le professeur Daniel Bachet et le professeur Philippe Nasnali, chez les éditions du Croquant, 317 pages pour 22 €, avec un dernier mot pour le professeur Philippe Nasnali sur cette parution. Quelles sont vos espérances ?
Sans complètement répondre à votre question, un dernier mot. Nous avons commencé notre livre à deux mains, ou à quatre mains, et nous avons terminé par une conclusion commune. Est-ce que ce n'est pas le plus bel exemple que les deux personnes parties de deux horizons différents sont arrivées au fond à une conclusion qu'il y avait un vrai espoir dans la collaboration et dans l'échange d'idées. Voilà, si vous voulez, un petit peu ce que je pouvais dire pour ce livre.
Une excellente parution qui fera date chez les éditions du Croquant, L'autre finance, Daniel Bachet et Félix Nasnali. Merci à vous.
Merci à très bientôt. Je vous remercie.